Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org, est avec nous Franciane Guenegues. Franciane, qui êtes-vous ?
Alors, c'est vraiment la question à ne pas me poser. J'ai toujours du mal à répondre à ce genre de questions. Merci bien sûr de m'interviewer. Hein. Parce que la question, c'est qui suis-je ? Or, dans ma vie, j'ai toujours eu du mal à être quelqu'une. Je suis plutôt multi-définition.
Eh bien,
toute ma
vie
a été comme ça.
C'est le côté multi-définition.
Multi-définition, comme multitâche, exactement la même chose aussi. Alors, je suis d'un milieu rural, donc je suis née à Locmaria-Plouzané, dans le Nord Finistère, dans une ferme. Donc, au moment des années, en 1948, c'était le moment où c'était très, très pieux, très catholique, avec le poids des curés. Et donc, j'ai été à l'école, pas de problème, et comme je travaillais bien, et que j'avais déjà une sœur aînée avant moi, elle ne serait pas restée à la ferme. Donc, du coup, moi, on m'a envoyée dans l'école des religieuses. Et c'est pour ça que j'ai été au Juvénat de l'Île Blanche à Loc-Yrec. Donc, pendant 7 ans, j'ai pensé me faire religieuse. Mais très vite, j'ai bien vu que ce n'était pas ma vocation. Et j'ai fait des études de lettres modernes à Brest, et je suis devenue professeure de français. Donc, pour ma vie professionnelle, il n'y a pas grand chose à dire, sinon qu'elle était aussi très très variée et que ça m'allait très bien. J'ai travaillé dans une école technique au moment où les BTS se développaient. Donc il a fallu développer tout ce qui était expression orale dans les BTS, ce qui n'existait pas avant. Et comme moi, je suis plutôt une femme orale. D'ailleurs, les écrivains africains me disent toujours ça. Mon écriture est très orale et c'est vrai que j'ai pu le développer dans mon enseignement.
L'enseignement des lettres, l'enseignement en général, ça apporte beaucoup de satisfaction.
Oui, j'ai vraiment eu la chance parce que c'était une école privée, hein, parce que je ne pouvais pas aller dans une école publique. Il a fallu aller ailleurs et donc je voulais rester à Brest. Et donc j'ai enseigné dans un lycée privé de Brest. Et donc mon poste était très varié et ça m'allait très bien. J'avais aussi des adultes en même temps, enfin, j'avais tous les âges, ça correspondait très bien à ma personnalité.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet enseignement? Est-ce qu'il y a des circonstances particulières, des personnes particulières, des jeunes, des adultes qui vous ont marqué?
Alors, voilà, j'ai tout vu. Et ce qui m'a surtout intéressée, c'est qu'en fin de carrière, j'ai fait partie de la MIJEC, donc la mission d'insertion des jeunes, où on récupérait des jeunes qui étaient restés à côté, dans les fossés un peu. C'est vraiment le cas. Hein. Et donc, j'ai eu des cas vraiment très étonnants. Des élèves qui ont bien réussi et d'autres au contraire qui ça s'est mal terminé et c'est un peu dommage et je voulais lutter justement contre ça, contre cette injustice qui fait que l'enseignement n'est pas toujours adapté aux élèves. C'est adapté aux bons élèves mais c'est pas adapté aux mauvais élèves.
En même temps c'est les préparer à réfléchir aussi, à discerner, j'allais presque dire le bien du mal mais c'est une notion très, très générale, mais ouais, les faire davantage réfléchir, même s'il faut apporter des connaissances.
Oui, et j'ai trouvé très intéressant parce que j'ai eu des comptables, j'ai eu des secrétaires, j'ai eu des commerciaux, et j'ai eu aussi la préparation donc, à l'IFSI, donc des infirmières, j'ai eu des préparations aussi à des concours administratifs, si bien que j'ai eu beaucoup de personnalités en face de moi. Et ce sont des gens qui ont très bien réussi. Et j'étais bien contente parce que avant, dans l'enseignement, c'était simplement ceux qui étaient très intelligents, qui réussissaient, qui avaient un QI remarquable. Et là, on pouvait voir que des élèves qui étaient tout simples, qui n'avaient pas un QI extraordinaire, pouvaient bien réussir dans la vie parce qu'ils avaient d'autres qualités, le sens pratique, le sens des autres, surtout cela, le sens des autres.
Et l'attention peut-être aussi. L'attention portée à ceux qu'on leur enseignait. Ouais.
Tout à fait, oui. Oui.
Oh non, et donc ce travail de professeur, vous l'avez fait pendant plusieurs années.
Oui.
Et vous m'avez dit, dans la région de Brest, la Bretagne pour vous alors?
Alors, la Bretagne pour moi, c'est pas tout à fait les cartes postales. Si, c'est un peu la Bretagne de Glamore, hein, les beaux paysages, hurler, sa colère parce qu'on ne reconnaît pas les Bretons. Mais pour moi aussi, la Bretagne, c'est une multitude, je reviens toujours à mon thème essentiel, hein, une multitude de personnalités. J'ai été un peu à la recherche des expériences des gens qu'on ne voit jamais dans les livres, dans les films. Et donc, par mon écriture, j'ai essayé d'aller voir des gens qui me donnaient des témoignages sur ce qu'ils avaient vécu, comment s'était décidé leur destin. Et ça c'était vraiment quelque chose qu'on ne voyait pas. Parce que très souvent, en Bretagne, son destin n'était pas décidé par soi-même, mais était décidé par d'autres, les autorités, quoi, la religion, enfin bref, ou le médecin, ou le maire. Et ça, c'est un thème qui me passionne, parce que quand mon livre est sorti, mon premier livre est sorti, que j'avais d'ailleurs expliqué ici, les vagues aussi ont choisi de se taire, beaucoup de témoignages me sont arrivés. Et toutes les femmes sont venues me dire « Mais toi, tu as réussi, tu as pu enseigner, tu as fait ce que tu voulais comme métier. Mais nous, on n'a pas pu le faire. On a été obligés d'aller au cours ménager. » Donc, après, de travailler à l'usine, mais ça nous reste, les chagrins restent. Et ce sont des personnes maintenant qui ont 70, 75 ans et qui sont toujours tristes d'avoir pas pu choisir leur destin. C'est ce mauvais côté de la Bretagne. Le bon côté, bien sûr, c'est la générosité, c'est l'ouverture, la particularité, le côté têtu que je trouve très intéressant aussi.
Le côté têtu, c'est un peu le côté travailleur aussi.
Travailleur, oui. Et je reviens un peu sur mon côté féministe, il finira bien par disparaître. Je voudrais que les chansons bretonnes chantent aussi l'hymne national breton, d'Afeiz Antadoukoz. Bon, c'est les pères, mais j'aurais bien voulu qu'on mette mame dedans, qu'on mette le mot mère. La mère, curieusement, dans les mères, la mère est curieusement absente dans les chansons que nous chantons pourtant en public, et ça me désole.
Des choses qui sont restées comme ça dans l'histoire aussi.
Tout à fait, oui, c'est ce qu'on retrouve, mais c'est pas normal. Il faut aussi que les femmes retrouvent leur place dans l'histoire, dans l'Église. Enfin, bref, il est temps que les femmes soient reconnues.
En fait, elles sont, et tant mieux d'ailleurs, en train de reconnaître leur histoire et de conquérir quelque part une place qui leur a échappé pendant quelque temps. Et pourtant, on parlait de matriarcat quand même en Bretagne.
Oui, alors le matriarcat psychologique des Bretons, c'est vrai, j'ai une grand-mère matriarche, extraordinaire, ma grand-mère, bien faire et laisser braire, enfin c'était le genre de personne, une sacrée personnalité. Mais quand même, elle était soumise à mon père, donc à son fils, pas à son mari. À son mari, c'était vraiment rien, quoi. C'était, oui. Son mari l'avait rencontré en marchant sur son pied, en descendant du char à banc. Mais c'est la seule fois où il lui a marché sur le pied. Après, c'est marrant, hein, cette anecdote.
Ouais, ouais.
Voilà. Et c'est elle qui commandait, quoi. C'est elle qui commandait. Il y a une sorte de matriarcat, mais qui n'allait pas jusqu'au bout. J'ai lu les livres sur le matriarcat qui m'ont beaucoup intéressée. Mais dans ma commune, il y avait comme ça des matriarches. Il y avait 5 ou 6 matriarches qui commandaient, à qui on venait demander leur avis. C'est curieux,
ah, oui,
hein.
Oui, oui.
Ça existait toujours, donc, dans les années 50-60. Et des femmes incroyables, quoi. Elles avaient un toupet, elles osaient tout. Et à côté d'elles, il y avait beaucoup de femmes soumises, comme ma mère, quoi, en fait, et qui obéissaient au curé, qui obéissaient aux injonctions des hommes, puisqu'on ne disait pas le mari, on disait des hommes, entre guillemets. Hein.
Ah,
c'était
ouais.
Le mot qui était utilisé, les
ah,
hommes,
ouais.
Quoi. On ne disait pas... chez moi, c'est toujours ça. Allez, va travailler avec les hommes. Enfin, on ne disait pas le mari ou bien mon mari. Ça n'existait pas. Ouais. Très, très curieux.
Ouais.
J'ai pris conscience comme ça en écrivant que certains mots n'apparaissaient pas dans la langue.
Et les hommes au café parlaient de leur patronne. Quand ils étaient un peu en retard, ils disaient bah, « ça y est, tu vas avoir des problèmes avec ta patronne ».
Voilà.
Ils disaient « je vais retrouver ma patronne ».
Voilà, il y avait des patronnes et il y avait les autres. Quoi.
Ouais,
il y avait 2 catégories de personnes et c'était très net. Oui, oui. Mais c'est très intéressant. Il reste encore des dames qui existent, enfin, qui sont entre 95 et 100 ans. Justement, j'étais un peu les voir pour demander un peu ce qu'elles pensaient, quoi. De quel côté elles étaient, est-ce qu'elles commandaient ou bien est-ce qu'elles obéissaient. Et donc, pour l'instant, je n'ai trouvé que des personnes, des femmes qui obéissaient, quoi.
C'était...
Mais avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, hein.
Ouais, ouais.
Elles
n'étaient
pas dupes.
C'était un peu les Ouessantines, en fait, sur le continent, ça.
Oui, mais les Ouessantines prenaient toute la place.
Oui.
Tandis que sur le continent, il y avait des places pour les hommes et il y avait des places pour les femmes.
Ouais.
Or, les Ouessantines, elles prennent toute la place.
Ouais, tout à fait. Ouais.
C'est pas tout à fait la même chose. Ouais,
ouais.
Parce que les hommes, là, étaient partis. Parce que là, les hommes sont là.
Ah ouais.
Oui, ils sont là.
Et alors, l'écriture, à un moment donné, vous avez voulu raconter, conter ou dire des choses comme ça, au travers de romans ou bien c'est des
récits? Alors j'ai commencé par une autobiographie donc, qui, avec un nom d'emprunt, puisque ma famille n'a pas voulu. J'ai été victime d'un secret de famille. Donc, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à avoir ma personnalité. J'ai même changé de prénom. Enfin, ma vie a été bousculée depuis l'âge de mes 9 ans. Quoi. Je n'ai pas pu être moi. Parce qu'on ne m'a pas dit ce qui était important dans la vie de famille. Il y a eu des deuils, un suicide. Enfin, il y a eu beaucoup de drames à ce moment-là. Et ma famille ne m'a pas dit. Si bien que, il a fallu faire avec. Alors, à cette époque-là, j'ai beaucoup écrit parce que j'étais très perturbée. Je ne comprenais pas les événements familiaux et personne ne voulait m'en parler. On me disait toujours, pas de vague. Moi, j'étais en pension chez les bonnes sœurs là-bas, à Lokirenk, et bon, je n'avais qu'à rester là-bas, à être pieuse, enfin, à faire tout mon petit trafic. Mais quand je venais à la maison, on ne me disait jamais ce qui s'était passé. Donc, il y a eu ce secret-là qui a gâché toute ma vie pendant des années, quoi. Il a fallu, à mes 34 ans, que je sache la raison pour que ma vie recommence à devenir à peu près normale, avec des vrais souvenirs, quoi. Avec des vrais souvenirs.
Et là, vous avez réussi à le débusquer le secret en question.
C'est
et
ça,
à l'exprimer.
Oui, tout à fait. Donc j'ai su pourquoi ma mère s'était suicidée, pourquoi il y avait des histoires dans le village. Enfin, c'est une histoire banale, hein. Mais dans les villages ruraux, c'est terrible. Les mauvaises langues se sont mis de la partie. Ils ont créé une vie impossible à ma mère, pas à mon père. Pourtant, c'est mon père qui avait... Enfin, ça touchait mon père, une infidélité, enfin, comme dans beaucoup d'histoires. Hein. Mais dans un village qui était très fermé sur lui-même... ça provoquait des drames, quoi. Oui. La personne qui était concernée, qui avait eu des enfants, par exemple, à l'église, les femmes, parce qu'il y avait les hommes devant, les femmes derrière, les femmes éloignaient leurs chaises pour ne pas être à côté de cette femme qui avait péché. Enfin, quand on voit ça, c'était vraiment très, très archaïque. Oui. Il y avait un fonctionnement archaïque et le modernisme arrivait, quoi. Mmh. Oui, ça se contredisait.
Mais néanmoins, ce sont des histoires, on peut dire, passionnantes ou plutôt pathétiques, en fait.
Oui. Et donc, le livre que je présente dans Le syndrome du presque, j'ai eu des témoignages, mais vraiment pathétiques. Les gens sont venus me raconter leur histoire. Et c'est surtout, il y a des histoires de femmes et d'hommes. J'ai essayé d'équilibrer un peu. Et donc, des histoires d'enfance, comment finalement on refuse à quelqu'une de passer son certificat d'études parce qu'elle est à l'assistance publique. Pourquoi un garçon ne peut pas faire d'études? Parce qu'il ne veut pas se faire curer. Enfin, donc, j'ai relevé comme ça. Simplement, des choix qui ne peuvent pas leur appartenir. Donc, l'orientation, on n'en parle pas. Les filles au cours ménager, voilà. Et l'ascenseur social, il fonctionne si on obéit. Donc, dans les années 60, il y a eu un ascenseur social très fort. Les études pouvaient permettre d'avoir des métiers. Mais alors, si on n'allait pas avec les curés, on ne pouvait pas faire d'études. Donc, on emmenait à Brest, à l'Arsenal, aux Arpètes, avec un métier très, très dur.
Ah, nous sommes toujours en compagnie de Franciane Guenegues, chers amis, bien sûr, qui est en train de nous parler de choses extrêmement intéressantes, finalement, du matriarcat en Bretagne, mais aussi... de ce qui se passait dans les petits villages et de ce qui pouvait se passer, se terminant vraiment en situation dramatique, en fait, pour les personnes qui étaient concernées. Elle va nous continuer à nous en parler. Le titre de votre livre ?
Le titre de mon livre, c'est « Le syndrome du presque ».
Le syndrome du presque. Alors ce presque-là... Ouais. Ben, vous allez continuer à nous en parler.
Voilà. Donc, nous connaissons tous le mythe de Sisyphe. Hein. Sisyphe est condamné à monter le rocher jusqu'en haut de la montagne. Et au moment où le rocher doit passer de l'autre côté, il ne passe pas. Donc, le rocher redescend en bas de la montagne. Et Sisyphe est condamné à pousser toujours son rocher. Et donc, j'étais très frappée. Quand moi-même, j'étais en pension, je jouais du piano... Et il y avait toujours un moment où je jouais une fausse note. Je n'ai jamais pu, même des morceaux que je connaissais bien, il y avait toujours un moment où je ratais. Et après, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis rendu compte que beaucoup étaient dans ce syndrome du presque. Presque réussi, et on rate. juste à la dernière minute, j'ai préparé des gens à des concours et certains ont passé les concours plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, et ils rataient toujours à 0,1, 0,2, 10e. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment quelque chose qui existait. On ne se donnait pas le droit de réussir. Et c'est pour ça que j'ai rassemblé tous les témoignages avec, de mon livre. J'en ai rassemblé 14. J'en avais beaucoup plus, mais j'aurais pu mettre davantage. Mais finalement, c'est vraiment... tous les témoignages sont dans la région bretonne, autour du Finistère, en gros. Hein. Il y a juste quelques-uns. Il y a un qui se passe en Éthiopie, mais c'est quelqu'un qui venait de Brest, donc c'est pareil. Hein. Il y a un autre qui vient de Châteaubriant, Ne pleure pas, Jeannette. Mais en gros, ce sont des faits qui se sont déroulés dans la région de Locmaria, Cernan, enfin bref. J'ai un peu changé les noms quand les personnes me demandaient, mais les faits sont exacts.
Voilà. Les faits sont exacts, et puis... Je voudrais insister quand même sur le côté importance de tel témoignage. Parfois, on parle de désuet, on dit oh, ça ne sert plus à rien. Mais personne ne peut être séparé de son histoire. Une société n'est jamais séparée entièrement de son histoire, même si les gens sont soi-disant modernes. Il n'empêche que tous ces faits-là ont existé et que les familles portent souvent, pendant très longtemps, ces faits sur les épaules.
Oui. Je suis étonnée, dans la commune où je vis maintenant, en Plouzané, il y a des faits horribles qui se sont déroulés, mais personne n'en parle. Il ne faut pas en parler. Pourtant, je sais ce qui s'est passé, des drames qui se sont déroulés dans les familles, mais il ne faut pas, donc pas de vague. Et moi, ça me met en colère, parce que comme étant enfant, on m'a caché la vérité, je veux à tout prix qu'on dise la vérité, et non pas presque la vérité. Quoi. Donc je suis doublement intéressée par ce thème-là, et je suis étonnée de voir le nombre de personnes, des petites gens, quoi, des gens ordinaires, hein, et, mais qui ont des choses très intéressantes à dire.
Et dont, dont on devrait retenir les leçons aussi, quelque
tout
part.
Tout à fait. Bah, mais ça,
la, leçon, la violence...
La violence familiale, elle est terrible. Oui. Et donc, mais surtout avant, quand les grands-parents habitaient avec les parents et les petits-enfants, donc il y avait une influence très forte des grands-parents, et les parents souvent n'osaient pas refuser. Oui.
Ce livre-là, c'est le dernier livre que vous avez écrit ?
Non.
Si vous voulez bien nous parler de votre
Alors,
dernier livre.
Alors, il y a plusieurs qui sont en cours de route. Alors, celui-ci vient juste de sortir, « Des lieux et des choses », c'est un livre de poésie. Donc, il y a 25 poésies sur les lieux et les choses. Alors, il y a des objets qui sont, bien sûr, bretons, le lit clos, la machine à coudre, etc., le triskel. Mais il y a aussi des lieux, la rue Saint-Malo à Brest. Il y a la foire de Gouesnou, enfin bref, des choses comme ça. Les cerfs-volants à Pospodère. Donc, il y a toute une série comme ça de poèmes que j'ai écrits. Alors, certains sont écrits d'une façon classique, mais les autres, c'est avec beaucoup de liberté. Oui. Quand reviennent les hirondelles, j'irai à la foire de Gouesnou, fantaisie, dissonance, le lieu que je porte en moi, le lit clos, la machine à coudre Saint-Ger. Là, c'était ma mère.
Ah ouais, la machine à coudre Saint-Ger. Un petit mot, peut-être, de cette machine à coudre.
Voilà, c'était sacré. Quand je voyais ma mère près de sa machine à coudre, je savais que j'aurais droit à des morceaux de tissu pour habiller mes poupées, parce qu'on n'avait pas, grand-chose, quoi. Donc, et je la voyais qui cousait, et je trouvais ça merveilleux. Oui. Et moi, à côté, j'attendais le moment où j'allais recevoir des tissus, même déchirés, mais je trouvais ça quelque chose de formidable.
Donc, un recueil de poésie qui s'appelle ?
Le recueil de poésie s'appelle « Des lieux et des choses ».«
Des lieux et des choses ».
Aux éditions Vérone. Les autres, c'est aux éditions Amalthée.
D'accord. Donc, Amalthée, édition Vérone, celui-là.
Oui.
D'autres ?
Alors, il y a deux qui sont en route, qui n'ont pas encore trouvé de titre parce que je réfléchis. C'est une enquête sur ce que sont devenus les juvénistes qui ont été à l'île Blanche. Donc, soit elles se sont fait bonnes sœurs, ou ceux de mon âge, il n'y a aucune à s'être fait religieuse. Donc, j'aimerais bien faire une enquête. Voilà, ça c'est le premier rêve, mais ça va se faire là. Et deuxièmement, c'est un roman policier sur la Bretagne, en prenant donc des lieux près de Brest, pour justement à la fois la Bretagne et puis le roman policier.
Vous avez déjà une idée peut-être sur...
Oui, oui, mais je ne vais pas vous dire, parce que sinon...
Non, bien sûr, on ne va pas vous demander.
Parce qu'il y a tellement, les côtes sont tellement découpées, il y a tellement de trous. Et j'ai fait un peu la côte Ploumouguer, enfin toutes ces régions-là, le Conquet. Il y a des trous partout, on peut rentrer à l'intérieur, c'est comme s'il y avait des portes, les rochers pouvaient cacher des portes et cacher des secrets. Donc j'ai envie de créer quelque chose par rapport à ça.
C'est une façon de parler de la polyvalence de l'écrivaine que vous êtes.
Oui.
Vous passez par des témoignages, la poésie, mais aussi dans l'idée, un roman policier, une intrigue.
Oui.
Et plein d'autres choses encore.
Oui.
Est-ce que sur le plan de l'écriture, est-ce que ce sont des choses tellement différentes au fond ?
Non, non, j'ai toujours non, c'est vrai, oui. Je voudrais avoir, j'essaie d'avoir un style fluide, quoi, que ce soit l'autobiographie, que ce soit les nouvelles et que ce soit la poésie. J'aime bien quand c'est fluide et que les gens puissent lire. Parce qu'il y a des livres actuellement, c'est véritablement désordre. On ne s'y retrouve pas dans les personnages et dans l'écriture. Je suis un peu vieux jeu par rapport à ça, mais j'aime bien quand l'écriture est vraiment quand c'est bien écrit. C'est mon côté professeur de français et je n'arrive pas à me changer.
Mais je pense que ce n'est pas vieux jeu. Oui, non, dans beaucoup de livres qui paraissent actuellement, et depuis déjà 7-8 ans, on limite le nombre de personnages, de façon que le lecteur n'ait pas à se disperser.
Oui.
Et on arrive même à glisser des personnages dont on ne donne pas ni les noms, ni les prénoms,
oui,
de façon que le lecteur, finalement, reste sur les personnages principaux et
oui,
reste dans l'histoire.
Oui, mais moi qui ai vécu avec beaucoup de gens toujours, à la ferme, il y a toujours plein de monde.
Mmh.
En pension, on était 200 dans l'école. Et donc, dans mon lycée, il n'y avait pratiquement que des femmes. Donc, il y avait énormément de femmes et d'élèves dans les sections couture. Donc, il y avait énormément de gens. Donc, pour moi, il est important qu'il y ait beaucoup de monde. La place de l'église, la sortie de l'église, enfin bref, il y a toujours du monde. Alors,
mais traiter
pas...
ça pour un lecteur, ça ne doit pas être facile du tout.
Oui, je sais, oui. C'est vrai que c'est... Il faudrait que j'y pense un peu plus, quoi, de ne pas...
Non, ça veut dire ça veut pas dire que ça ne marche pas, au contraire. Mais vous avez cette capacité de décrire des foules, parce que là aussi, les ambiances de foules, justement.
Oui.
De laquelle peut sortir un ou deux personnages.
Oui.
Mais la foule globale agit en son âme et conscience et ne réfléchit pas. Vous savez, une foule avance,
c'est
recule.
Ça. C'est vraiment l'impression que j'ai dans mon enfance. La foule, elle bouge. Enfin bref, que ce soit la foire à Cernan, que ce soit aller avec toutes les classes à Huelgoat, parce qu'il y avait beaucoup de manifestations à l'époque. Hein. Il y avait toujours la foule. Mais j'essayais de chercher des personnes qui étaient originales. J'ai toujours cherché ça. Des personnes qui sortent de l'ordinaire, des gens vraiment dont on a envie de parler. C'est ce que je cherchais.
S'exprimer pour le public sous forme d'un livre, c'est totalement différent d'une ambiance juvénat.
Oui. Mais au juvénat aussi, il y avait le groupe, mais on arrivait toujours à aller vers une voie secondaire. Oui, ouais. Mais on était punis, hein. On était très punis quand on faisait quelque chose qui n'était pas permis. Il fallait aller se mettre à genoux. Je me souviens, j'avais dansé le twist sur une chaise à une copine en quatrième. Tchou, de tous côtés, on n'entend plus que ça. Et voilà pas que la religieuse, elle arrive. J'étais en quatrième. Hein. Et elle nous voit. On a été obligés d'aller demander à genoux pardon à la chapelle, demander pardon à Dieu à qui on avait fait la peine.
Donc vous avez dansé le twist sur une chaise en quatrième à Lille Blanche.
Oui, c'est ça.
Là, on va
ça.
Le faire savoir à l'Okirec.
J'en ris encore parce que c'est trop drôle.
Ouais. On approche du terme de l'émission.
Oui.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Oui. Donc je suis maintenant arrivée à mon... Bon, je suis devenue senior, hein. Je ne dis pas vieille, je dis senior, voilà. Et je fais partie des seniors qui sont en bonne santé, qui ont plein encore d'imagination et plein de possibilités. Et je voudrais que ma vieillesse donc soit flamboyante. Et je dis à tout le monde, il faut se lancer, il faut aller jusqu'au fond de ses passions. Parce que souvent, on a tellement été retenu dans son enfance et l'adolescence, on n'ose plus rien faire. Et donc, on a des gens en retraite qui s'ennuient à mourir, qui ne savent pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je leur dis, moi, mais écrire, dessiner, enfin, trouver une passion, peu importe, faire de la porcelaine, enfin, n'importe quoi. Et on a toujours une force vive en soi, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Relayez tous autour de vous ce conseil de bon sens et d'avenir que nous donne Franciane Guenegues. Je vous remercie, Franciane Guenegues, d'être venue nous parler de votre travail d'écrivain, remarquable au demeurant. C'était Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Était avec nous Franciane Guenegues.
Je vous remercie aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.